Il est 8h20 à Paris, nous sommes le 6 avril et demain marquera les 6 mois du début de la guerre entre Israël et le Hamas. 6 mois depuis les attaques sans précédent et extrêmement meurtrières du Hamas sur le sol de l'État hébreu. Près de 1200 morts en seulement quelques heures le 7 octobre. Aujourd'hui, l'offensive de l'armée israélienne à Gaza se poursuit. Près de 33 000 Palestiniens tués et 130 otages. Toujours retenu dans l'enclave. Mais revenons ce matin là où tout a commencé, 6 mois après que deviennent les rescapés des attaques du Hamas en Israël. L'une d'entre eux est notre invitée aujourd'hui, Laura Blajman-Kadar. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI ce matin. Vous êtes vous-même organisatrice de festivals de musique franco-israélienne. Vous avez survécu au massacre du festival Tribe of Nova. 371 personnes tuées dans le désert du Negev où elles faisaient la fête. Vous avez choisi de raconter ces moments dans un livre intitulé « Croire en la vie ». Vous êtes en France actuellement pour prendre part à des commémorations. Demain à Marseille, on sait que ce genre de cérémonie peut faire particulièrement remonter les douleurs, les traumatismes. Comment vous sentez-vous aujourd'hui?
C'est des jours très très difficiles. J'avoue que même si ma vie tourne autour du sujet, je n'avais pas réalisé que ça va faire 6 mois, que tellement de temps a passé. Ces 6 mois, c'est une éternité. Et pourtant, nous, on a toujours un peu l'impression d'être au mois d'octobre, que tout vient de passer. Mais dans ces deux jours pareils, on commence à penser aux petits-enfants que ça fait 6 mois qu'ils sont otages à Gaza, aux filles qui ont été prises du festival et que ça fait 6 mois qu'ils sont là-bas. C'est une éternité.
Parfois, écrivez-vous, avant qu'un événement important se produise, nous accomplissons des gestes ou prononçons des paroles qui, avec le recul, prennent tout leur sens. Ce sont des mots au début de votre récit qui commence par un chapitre intitulé « Compte à rebours ». Vous racontez les jours qui précèdent les attaques du Hamas. Vous y décrivez votre arrivée sur le site du festival, les nuits de fête, les retrouvailles avec les amis. Vous distillez aussi dans ces premières pages les choix, les décisions qui peuvent sembler banal et qui sauve certains, à respecter le Shabbat et partir plus tôt, louer un appartement et se lever plus tard. On ne cesse de penser à ça après avoir vécu un attentat?
Oui, bah en fait, c'est toutes petites décisions qui ont fait qui est resté en vie et qui a été assassiné ce jour-là. Des décisions qu'une partie on sait pourquoi on les a prises, une partie on ne sait pas pourquoi on les a prises. Et le résultat, on doit vivre avec.
Alors le matin du 7 octobre, après 2 jours du festival Unity sur le même site, vous êtes en train de vous préparer à rejoindre la piste de danse du festival Tribe of Nova quand les premières roquettes traversent le ciel à 6h28. Au début, vous écrivez que ça ne vous paraissait pas anormal.
Ben, c'est triste à dire, mais dans notre réalité en Israël, des attaques de roquettes, c'est des choses qui arrivent. Et donc, quand ça a commencé, on était un peu effrayés parce que bon, on est dans une forêt, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas d'abri non plus, donc il n'y a pas où aller quand on comprend que c'est des roquettes qui explosent au-dessus de notre tête. Mais pendant les premières minutes, on était effrayés, mais on n'a pas paniqué, on a l'habitude, on a dit quel dommage, le festival est terminé. On pensait que ça se terminerait dans un quart d'heure, 20 minutes, on rentrera à la maison.
D'ailleurs, certains étaient déjà en train de quitter le site dans leur voiture. Comment prenez-vous conscience que ce qui se passe est beaucoup plus grave?
Ben, après une 42 minutes, une heure, quand on voit que les roquettes continuent à tomber et ne cessent pas, et les premières personnes qui ont essayé de partir en voiture sont revenues avec des blessés parce qu'ils ont parlé de terroristes qui tirent sur tout le monde sur les chemins de la forêt. C'est le moment qu'on a commencé à comprendre que on pensait au début que c'était un attentat. On pensait qu'on parle de 2-3 terroristes. Mais c'est le moment qu'on a compris qu'il y avait quelque chose de bien plus grand qui est en train de se passer.
Alors c'est vous qui ordonnez quasiment à ceux qui vous entourent de vous cacher dans la caravane qui va vous sauver la vie. Vous écrivez qu'à ce moment-là, ce sont vos réflexes de l'armée qui ont repris le dessus.
Bah oui, je pense que mon expérience militaire, c'est ce qui m'a aidé à rester calme dans les moments où qu'on a senti la mort à côté de nous. Qu'on comprend que des terroristes arrivaient, réussir à rester calme et ne pas devenir hystérique et à comprendre quels sont les risques et prendre la décision qu'on n'a pas où se cacher dans une forêt, on ne va pas se cacher derrière un arbre. et décider que la caravane est l'option la plus sûre.
Vous êtes resté 6 longues heures dans cette caravane, serrés les uns contre les autres avec vos amis, votre mari, dans une atmosphère suffocante. À partir de ce moment-là, vous ne voyez rien, mais vous entendez tout. Vous avez cru plusieurs fois que la fin était proche.
Oui, à plusieurs reprises, les terroristes ont essayé d'ouvrir la porte, ont tiré sur la caravane, ont compris à la fin qu'on est vivant dans la caravane et ont tout fait pour nous faire sortir, ont essayé de nous brûler, de casser les fenêtres. Et dans ces moments-là, mon mari et moi se regardaient les yeux dans les yeux et c'est le moment qu'on dit au revoir avec un regard.
Mmh. Et avec des messages que vous échangiez d'un bout à l'autre de la caravane par téléphone.
Exactement, car on ne pouvait pas parler, donc on s'est envoyé plusieurs messages. Dans les moments que j'étais certaine que c'est les dernières minutes de ma vie, j'ai envoyé des messages d'adieu à... Je n'ai pas été capable d'envoyer un message d'adieu à mes parents directement. Je les ai envoyés un message à un ami en lui demandant de... qu'on se rassure que je ne suis plus là, qu'il transmette ce message à mes parents.
Mmh. Et 6 heures après le début de l'attaque, vous comprenez par vos échanges avec l'extérieur finalement que vous pouvez sortir de la caravane, que vous êtes hors de danger. C'est là que vous découvrez l'horreur de ce qui s'est passé. Comment la décrire ?
Pendant 6 heures, on n'attendait qu'une seule chose, c'est de pouvoir ouvrir la porte de la caravane et sortir. Mais après 6 heures, quand la porte s'est ouverte, c'est ouvrir les portes de l'enfer. C'est très dur à décrire ce qui s'est passé là-bas, mais des dizaines de personnes mortes par terre. Je ne vais pas décrire dans quels états ils étaient, mais je peux dire que quand ça a pris plusieurs semaines à identifier les corps de mes amis, on n'était pas surpris après les choses qu'on a vues là-bas.
Ouais. Vous décrivez tout au long de l'attaque l'impossibilité d'obtenir une intervention des forces de sécurité. On sait depuis que l'armée israélienne avait été informée avant le 7 octobre d'un scénario possible, similaire auquel elle n'avait pas cru, que des signaux d'alerte ont été ignorés quelques heures avant l'attaque. Est-ce que vous attendez que l'armée rende des comptes sur ce qui s'est passé en amont du 7 octobre et le jour même ?
Ben, j'ai fait confiance à l'armée israélienne qu'elle sait se vérifier et voir où étaient les erreurs et faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc je leur fais complètement confiance qu'ils savent le faire.
Après l'attaque, vous avez eu besoin de partir du pays pour un temps. Quelques semaines après, donc vous êtes parti en Inde. Vous n'êtes pas encore rentré en Israël. Est-ce que vous arrivez à envisager ce retour aujourd'hui ?
Alors, vous savez, en fin de compte, Israël, c'est le pays des Juifs. On sait bien que c'est le seul endroit où on est vraiment chez nous. On est bien reçu là-bas. Et en fin de compte, on reviendra chez nous. Aujourd'hui, pour être honnête, après le traumatisme personnel qu'on a vécu, c'est encore compliqué de revenir.
De votre point de vue, comment la société israélienne a-t-elle changé depuis le 7 octobre ?
Je crois qu'on ne peut pas encore savoir exactement comment elle a changé. Les gens d'Israël sont tous en attente. On est toujours au mois d'octobre, on ne peut pas continuer notre vie, commencer à guérir ou voir où est-ce qu'on en est. Donc on attend encore 134 personnes qui sont là-bas.
Et on voit d'ailleurs des manifestations où des familles d'otages sont présentes pour dénoncer la stratégie militaire de Benjamin Netanyahou, demander un cessez-le-feu pour permettre la libération des otages. Quel regard portez-vous sur cette question ?
Les familles d'otages sont très claires, il faut ramener les otages à chaque prix. Et leur demande vers Netanyahou et vers le gouvernement est très claire, de ramener leurs familles, leurs amis, nos amis. Ils ne demandent pas de cesser le feu sans rien, ils demandent à cesser le feu contre un changement d'otage. Et j'imagine que mon pays fait tout pour ça.
Merci Laura Blajman-Kadar, vous êtes survivante du 7 octobre, autrice du livre « Croire en la vie » aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur RFI ce matin.